Souhaitons maintenant débuter notre troisième plage de cette conférence, ayant eu le privilège d'être pendant plus de 10 ans un subordonné du président Cornelius Maruga. J'espère avoir appris les vertus de la ponctualité, parce que c'était un homme qui était toujours absolument ponctuel. Les séances débutaient à l'heure, il n'y avait pas de questions à se poser, il n'y avait pas non plus de canneurs académiques. Ce matin, nous avons de nouveau un ordre du jour très rempli. Nous aurons 2 exposés liés aux questions de presse, 2 exposés liés à la, disons, question de presse, à la réception du souvenir de Solferino dans les médias, 2 exposés liés à la place du souvenir de Solferino dans la stratégie de communication du Comité international de la Croix-Rouge, un de nature historique, ayant trait au passé, un ayant trait à la politique de communication d'aujourd'hui. Et puis Antoine Fleury dégagera les conclusions du colloque, comme il l'a si bien fait lors du colloque précédent il y a 2 ans. Avant cela, j'ai le plaisir de donner la parole à Cornelius Maruga, qui était président du CICR de 1987 à 1999. Cornelius Maruga, j'ai quand même eu l'occasion bien souvent de l'entendre faire des discours, et il était très rare qu'il n'y eût pas dans un ou l'autre de ses discours une référence au souvenir de Solferino, une citation du souvenir de Solferino, et c'est pour ça que nous sommes très heureux de pouvoir lui donner la parole maintenant pour à la fois un exposé, mais je dirais surtout un témoignage. Merci Cornelius.
Vous rigolez, mais vous savez, dans les 4 langues que je parle, c'est la plus belle des expressions que j'ai trouvées pour saluer au début d'un dialogue avec l'invocation du Tout-Puissant comme témoin, peut-être aussi comme inspirateur. Donc je vous dis, mesdames et messieurs, chers amis, Gruskot. C'était le mois de mai 1986, quand je reçus le premier appel de Genève m'indiquant que le comité discutait d'une éventuelle présidence de ma part. Je savais peu de la Croix-Rouge et presque rien du CICR. J'étais en crainte de refuser. Mais un conseil de famille avec ma femme et mes 6 enfants, et surtout la rupture du souvenir de Solferino, m'amenèrent à dire que je ne refuserais pas l'élection. Du reste, à peine élu, avant d'entrer en fonction, j'entrepris avec Jacques Mollion une visite à Solferino et Castillo. Pourquoi l'importance pour moi de relire l'ouvrage? Et je l'ai surtout comprise lorsque, au début de son livre, Henri Dunant déclare, je crois François Bunion a déjà cité ce passage, je cite, « Simple touriste entièrement étranger à cette grande lutte, j'eus le rare privilège, par un concours de circonstances particulières, de pouvoir assister aux scènes émouvantes que je me suis décidé à retracer. » Fin citation. Moutin disait, toute proportion gardée, c'était un peu l'histoire que je m'apprêtais à vivre. L'action de délégué humanitaire au milieu d'un monde en ébullition, avec beaucoup d'expériences plus ou moins mouvantes, mais toujours remarquables. Intérêt à la première lecture, comme étudiant de l'ouvrage Henri Dunant, m'était surtout venu de par le fait qu'ayant fait ma maturité en Italie, je connaissais l'histoire du Risorgimento, la seconda guerra d'indipendenza avec les batailles de Varese, de Garibaldi, de Montebello, de Palestro, de Magenta, de Melegnano et enfin de Solferino et San Martino. elles étaient dans ma mémoire. Et j'avais en scooter parcouru la Lombardie entre les lacs de Como, le Lario, et le Garda, le Benaco, en touchant des villes telles que Bergamo, Brescia, Mantova, Verona et des localités telles que Salon, où Mussolini avait son quartier général en 44-45, et des Enzane. Et j'avais, à l'époque, aperçu la tour de San Martino della Battaglia. Mais la première lecture du souvenir de Solferino m'avait permis, comme jeune officier de l'armée suisse, d'approfondir aussi la stratégie militaire des deux camps à moitié du XIXe siècle. L'action dans les Dunans était courageuse et devait, dans cette bataille du 24 juin 1959, où, comme il le dit lui-même dans son livre, je cite à nouveau, on comptait en tuer ou blessés dans les armées autrichiennes et franco-sardes 3 feldmarschaux, 9 généraux, 1156 officiers de tout grade, dont 630 autrichiens et 936 alliés, et environ 40 000 soldats ou sous-officiers. Fin citation. L'action dans les Dunans devait, disais-je, démontrer les graves lacunes des services humanitaires des armées, ce qui a du reste été documenté ici même, jeudi soir et vendredi. La deuxième lecture de 1986 ne m'intéressait pas, mes chers amis, pour les noms des aristocrates cités. C'était presque un gotha. Elle m'intéressait cependant pour les réflexions et l'action de Dunant. C'est la mise en œuvre du proverbe japonais qui dit « Penser sans agir n'amène à rien, mais agir sans penser mène au désastre. » Ce que je retins à cette époque m'accompagnait pendant toute ma présidence, 12 ans et 6 mois de présidence. C'est ainsi qu'après cette lecture qui est née ma devise CICR, constance, rigueur, humilité. Tout d'abord, je fus frappé par l'éloge réitéré de Dunant pour les femmes de Lombardie, femmes du peuple, à Castiglione, et aussi grande et noble dame à Brescia, Cremona et Milan. Dans la Chiesa Maggiore, ce sont des infirmières improvisées, belles et gracieuses jeunes filles. Et le passage du livre le plus saisissant à ce propos dit, je cite, « Les femmes de Castiglione témoignent la même bienveillance à tous ces hommes d'origines si diverses, et qui leur sont tous également étranger. Tutti fratelli, répétait-elle avec émotion, honneur à ces femmes compatissantes, à ces jeunes filles de Castiglione. Rien ne les a redoutées, lassées ou découragées, et leur dévouement modeste n'a voulu compter ni avec les fatigues, ni avec les dégoûts, ni avec les sacrifices. » Fin de citation. Et n'oublions pas dans ce contexte ce que dit la noble dame de Cremona, laquelle entourait tout à fait des mêmes soins les Autrichiens et les Alliés, et qu'elle ne faisait pas de différence entre alliés et ennemis, je cite, « car Jésus-Christ n'a point établi de telle distinction entre les hommes lorsqu'il s'agit de faire du bien. » Fin de citation. Combien de fois j'ai utilisé ce passage, ces passages du souvenir de Solferino, parfois également en italien, pour présenter et défendre le principe fondamental de volontariat bénévolat. Mais dans ce passage, il y a beaucoup plus. Les femmes disaient et appliquaient le principe fondamental d'impartialité, avec leur mot « tutti fratelli ». Ce sont aussi des mots que j'ai beaucoup utilisés pour souligner qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise victime et que toutes ont droit à la protection et à l'assistance. Dunant, dans tout son livre, ne prend pas parti, il me paraît, pour l'un ou l'autre camp. C'était un modèle à citer, pour présenter le principe fondamental de neutralité. Le passage cité plus haut nous parle aussi de Castiglione et l'une de ses églises transformées en Lazaret. Oui, c'est bien la Chiesa Maggiore, aujourd'hui appelée Duomo, où l'idée de la croix rouge est née. Combien de fois j'ai rappelé dans mes pérégrinations, en me référant aussi à la plaque que le CICR y avait apposée sur la paroi interne au fond de l'église, en rappelant aussi Don Lorenzo Barzizza. C'était la démonstration du principe fondamental d'humanité. Ici à Castiglione delle Stiviere, il fallait le rappeler, c'était le berceau de la croix rouge et non Solferino, qui était le champ du désastre. C'est bien que l'ouvrage, un souvenir de Solferino, ou faudrait-il plutôt dire un souvenir de Castiglione, est une place privilégiée dans le précieux et beau petit musée de Castiglione. Je me plais du reste à être citoyen honoraire de cette ville de Lombardie. C'est pourquoi vorrei salutare cordialmente coloro che sono arrivati da Solferino e Castiglione e in particolare anche salutare Maria Grazia Baccolo, l'anima del Museo della Croce Rossa di Castiglione. En évoquant les principes fondamentaux de la croix rouge, je ne peux pas oublier, chers amis, de mentionner la parabole du bon samaritain de l'évangile de Luc, à laquelle, rappelons-le, ne se réfère pas du nom dans son ouvrage. Ou, laissez-moi rappeler que le samaritain, étranger en terre de Judée, fait un geste d'humanité en soignant et en amenant la victime à l'auberge la plus proche, en toute indépendance. Personne ne lui avait demandé de le faire. En pleine impartialité, car il ne veut pas savoir de quelle origine est le blessé. Et aussi en pleine neutralité, car il ne veut pas savoir qui étaient les brigands qui avaient attaqué la personne en cause. Nous ne devons pas oublier, et ceci peut être aussi le cas pour la population de Lombardie, que le pape Jean-Paul II, le 22 juin 1991, dans son serment du Duomo de Castiglione, rappela, et je le cite, l'œuvre du philanthrope genevois Henri Dunant, qui fut à l'origine, en ce même endroit, de l'idée de la croix rouge. Et le pape d'ajouter que Dunant, témoin fortuit de la bataille, était en admiration de l'œuvre de secours prêtée par les habitants du lieu, prêts à soigner les blessés diverses nationalités qui étaient pour eux tous frères. Fin de citation. J'aime rappeler ici cette rencontre, comme j'ai souvent fait avec gouvernement et société nationale, quand cela était approprié, pour souligner là aussi le principe fondamental d'humanité. En effet, dans son discours, Jean-Paul II dit son estime et son appréciation pour la Croix-Rouge internationale qui a rendu multiples services et continue à les rendre à l'humanité dans les moments tragiques des guerres. Et à la fin de la messe, descendre vers moi pour me serrer la main et féliciter le CICR pour son œuvre universelle. Dans son livre, chers amis, Henri Dunant évoque les messages épistolaires avec ces phrases marquantes. Je le cite, « Tu ne peux te figurer combien le soldat est ému quand il voit paraître le bagmestre chargé de la distribution des lettres. Et plus loin, chacun écoute, regarde et tend vers lui des mains avides, les heureux. Ceux qui ont une lettre l'ouvrent précipitamment et la dévorent, s'étouffe. Fin de citation. C'était, pour le président du CICR, très bien de pouvoir se servir de ce passage pour souligner, auprès des collaborateurs surtout, l'importance du travail agence. Car l'échange de messages, que cela soit de prisonniers ou de civils, est pour eux fondamental. Et parlons des secours prodigués à Brescia, une ville que Henri Dunant mentionne souvent dans le souvenir de Solferino. Dunant revient sur la question des infirmières. Et je le cite à nouveau. Ah, combien eussent été précieux dans ces villes de la Lombardie une centaine d'infirmiers et d'infirmières volontaires expérimentés et bien qualifiés pour une pareille œuvre. Fin de citation. C'était ce qui me permettait de souligner l'importance d'une bonne formation quand je parlais au cours HELP du CICR, Health Emergencies in Large Population, je crois que c'est le nom complet, ou bien au cours des infirmières auxquelles j'ai très souvent participé. Et justement, ces infirmières que j'ai beaucoup admirées et appuyées pendant ma présidence, en fait, que je leur consacre avec la mention « Honneur à l'infirmière inconnue », le tableau « La Croce Rossina » de Ugo Bermasconi, qui est, c'est un cousin lointain de ma mère, qui est au CICR dans le salon antichambre du directeur général, peut-être encore appelé salon à Pierre, ça, je ne sais pas. De plus, les propos d'Henri Dunant cités plus haut étaient le prélude d'un message, et pour moi le plus important du livre, qui dit, aussi déjà cité par plusieurs de ceux qui ont parlé avant moi, je cite, « N'y aurait-il moyen, pendant une époque de paix et de tranquillité, de constituer des sociétés de secours, dont le but serait de faire donner des soins aux blessés en temps de guerre par des volontaires zélés, dévoués et bien qualifiés pour une pareille œuvre ?» Point d'interrogation. Fin de citation. Voilà. Chers amis, le message qui permet au président du CICR de dire que c'est bien Dunant dans son livre qui a été à l'origine du mouvement et qui a esquissé la mission des sociétés nationales. Et ceci aussi parce que plus loin, on lit encore, je cite à nouveau, « Pourquoi ne profiterait-on pas d'un temps de tranquillité relative et de calme pour étudier et chercher à résoudre une question d'une importance si haute et si universelle ?» Au double point de vue de l'humanité et du christianisme, point de progression. Et de là, on arrive à l'affirmation qu'il faudrait formuler quelques principes internationaux conventionnels et sacrés, lequel, une fois agréé et ratifié, servirait de base à des sociétés de secours pour les blessés. Fin de citation. C'est l'étincelle qui a permis de développer tout le droit international humanitaire, en partant de la Convention de 1864. Et le président du CICR de le rappeler au mouvement et au gouvernement que le tout était né déjà dans le livre Le Souvenir de Solferino. Et pour que cela soit documenté, le président du CICR que j'étais a eu pour coutume, et certains de mes collègues qui m'ont accompagné dans des missions s'en rappelleront peut-être, il avait pour coutume de présenter comme souvenir cadeau à ses intercoureurs autour du monde la dernière impression du souvenir de Solferino, jusque les stocks du CICR étaient épuisés. Et c'est exactement celui-là que j'ai donné à beaucoup de mes interlocuteurs. Et en le donnant, je soulignais notamment une phrase des mémoires d'Henri Dunant, de ne pas négliger les femmes, puisque c'est par elles que l'humanité peut s'améliorer. C'est, chers amis, une phrase fondamentale qui touche le CICR pour son action humanitaire, mais aussi tous ceux qui veulent entreprendre une œuvre de paix. Laissez-moi ajouter deux paragraphes de l'avenir sanglant. Les textes sont de 1864, que le président du CICR que je fus a parfois cité dans ses conférences et discours. Je cite, « Au nom de l'humanité, de la raison, au nom du christianisme et de la politique elle-même, je désire qu'à l'heure solennelle où des hommes, des concitoyens, des chrétiens, armés les uns contre les autres, viennent de répandre leur sang de soldats sur cette terre que devraient seuls arroser les sueurs des laboureurs, je désire que la charité, sous la forme d'une société de secours, puisse disputer à la guerre toutes celles de ces victimes que le fer a atteintes, mais que la mort n'a pas encore moissonné. » Et encore, c'est le deuxième paragraphe que je cite, « L'œuvre qui nous occupe doit être internationale car elle est universelle. C'est l'œuvre de tous pour tous. Elle doit intéresser chaque être humain. Elle embrasse l'humanité entière et dans un cercle plus restreint, chaque peuple, chaque contrée, chaque famille même, puisque nul peut se dire à tout jamais à l'abri des chances de la guerre. Elle touche au plus impérieux instinct des individus et remue les sentiments les plus intimes de la population. » Fin de citation. Là aussi, en régulant un langage fort et convaincant, message à jamais oublié, parmi ceux qui s'engagent pour la Guadeloupe. Merci de votre attention.
Merci Cornelio pour ce témoignage tellement vivant, tellement émouvant.